Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court, tous les soirs, une conversation qui dure une heure ce soir avec Christophe Chassol.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Chassol.
Vous souvenez-vous des règles biscornues et joyeuses que vous inventiez dans la cour d'école, dans les champs, dans la rue, dans votre chambre, enfant, pour que vos jeux tiennent debout? Mieux, pour que vos jeux soient enthousiasmants, hypnotiques et émancipateurs. Est-ce que vous vous souvenez des chansons qui, à cette occasion, contenaient l'univers entier, le nom de vos copains, celui de vos nounours et celui d'entités imaginaires et magiques? Il y a une autre question maintenant. Comment cette énergie peut innerver notre présent, quel que soit notre âge? Comment faire pour que cette puissance créative et vivante soit dans nos corps et dans nos têtes? Dans votre dernier projet, Christophe Chassol, il semble que vous ayez encore inventé des règles nouvelles pour aller du ciel jusqu'à la terre, en passant par une sorte d'enfance partagée. Tout se tient dans l'UDI, sorti sur le label Tricatel, les voix, les images, les ballons, les arcades, les lumières, les chants, les amis, tout est traversé d'une onde scintillante qui fait du bien. Bonsoir à vous.
Bonsoir Marie.
Soyez le bienvenu. Il y a une figure qui est là, qui plane, qui traverse ce disque très ludique comme son nom l'invite. L'invite et l'indique. C'est Hermann Hesse. Si on le connaît pas, on s'en fiche. Si on le connaît, on écoute une archive.
Oui, on dit que les hippies, pour employer ce mot qui est bien galvaudé maintenant, promènent tous les œuvres de Hesse dans leur sac. Est-ce que vous ressentez en France, parmi un public un peu plus jeune, un même goût, un même désir de connaître et de découvrir Hesse actuellement?
Il me semble qu'effectivement, il y a là toutes les réponses que la jeunesse... Enfin, toutes les réponses, ou plutôt un cheminement proposé par Hesse qui correspond bien à la tendance actuelle d'une certaine jeunesse qui refuse une certaine forme de vie, enfin, qui ne veut pas continuer peut-être dans les chemins tracés par leurs aînés en se disant « où mènent ces chemins ?» Hesse est quelqu'un qui sans cesse doute de lui-même, doute du chemin à parcourir, et S ne conclut jamais, n'est-ce pas? Il remet toujours tout en question.
Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer des teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel, tout cet immense matériel de valeur spirituelle, le joueur de paires de verres en joue comme l'organiste de ses orgues, mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable. Leur clavier et leur pédale explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nombre. Et théoriquement, cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. qu'avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer les teintes de sa palette. Ce que lui a donné à produire au cours de ses ailes créatrices dans le domaine de la connaissance. Des grandes idées, des œuvres d'art. Ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Presque inconcevable. Leur clavier et leur pédale explorent le cosmos spirituel tout entier.
Il y a une chorégraphie qui correspond à ce morceau et que chacun et chacune peut imaginer. Vous êtes en train de la faire, Chassol. Alors, on entendait une archive de 1973 et c'est Marie-Claude Trémois qui introduisait la conversation pour parler d'Hermann Hesse en disant « Bon, tous les hippies se trimballe les livres de Hermann Hesse. On est en 73. Le livre « Le jeu des perles de verre » vient d'être traduit par Jacques Martin, c'est chez Calman Levy. Et la personne interviewée commente la figure de Hesse, comme ça un peu incomprise en France, manifestement, en disant « En fait, si les Français n'ont pas aimé Hesse jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils doutent trop. » Et que les Français sont trop cartésiens et qu'il a fallu le passage par les États-Unis pour que, comme ça, ça arrive jusqu'à nous. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est sans doute vrai. Moi, j'imagine que c'est un peu la même chose en musique où le doute. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas en Europe, en France, qui ne font pas les choses parce qu'il y a le poids des aînés, parce que c'est des vieilles civilisations avec, je sais pas, pour la musique, il y a Beethoven, Mozart, tout ça. Il y a le poids de ces grands compositeurs. Et aux États-Unis, comme c'est un pays plus jeune, ils ont fait des choses plus jeunes, plus radicales, plus folles. Et ils se sont moins posés de questions, en effet. Ils ont fait, par exemple, je sais pas, le minimalisme en musique américaine, classique américaine. Donc oui, ça m'évoque... oui, j'imagine que ça doit être vrai. Et puis, c'est vrai que j'avais pas réalisé que j'étais un hippie. Mais c'est vrai que j'avais un peu cette idée que tous ces romans initiatiques, ou les Stefan Zweig, ou Kundera, tout ça, oui, les hippies sont friands de ça, en fait, oui, en effet.
C'est un livre, celui-ci, ou plutôt l'œuvre de cet auteur qui vous accompagne depuis longtemps?
Ah, moi, c'est depuis longtemps, mais il raconte un peu toujours la même chose, en fait.
Il raconte quoi?
Il raconte un parcours, une initiation, c'est comme si c'était des biopics, en gros. Lui, il est taoïste, qu'en fait, donc pour lui, c'est yin et yang, c'est toujours les mêmes oppositions, c'est le père, la mère, la terre, le ciel, la chair, la raison, l'organique, l'intuitif versus le hyper-pensé. C'est ce qu'il raconte dans Narcisse et Goldmund. Narcisse et Goldmund, c'était le bouquin que je voulais vraiment adapter, c'est celui vraiment qui était mon livre de chevet. Il y a eu Siddhartha aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Mais Narcisse et Goldmund, je me suis identifié naturellement à Goldmund, qui part du monastère et qui traverse la campagne allemande pendant la peste et qui rencontre plein de femmes et qui devient artiste en rencontrant un vieux maître et qui veut sculpter le visage de la mère pour retrouver la mère, la chair qu'il n'a pas eue parce qu'il a été élevé par Narcisse, le moine hyper, la figure du père, hyper cartésien, hyper raisonné.
Donc ça veut dire que l'idée d'un Hermann Hesse qui est en permanence à la recherche d'un chemin, que finalement tout est une histoire de chemin qu'on suit ou qu'on ne suit pas, quelque chose qui vous parle?
Moi, la lecture, c'était vraiment une lecture très, très, où je m'identifiais à fond, quoi, en fait, à chacun des héros. Et donc, comme il raconte une histoire de vie, c'est des choses qu'on lit jeune et on se dit, j'aimerais bien cette trajectoire ou pas, quoi. En gros, c'est aussi simple que ça. Et ce qu'il y a, c'est que comme il est très érudit, il invente quand même des personnages qui ont l'air d'avoir des super pouvoirs, donc on aimerait bien les avoir, ces super pouvoirs, de la même façon, je sais pas, quand on voit une fac, quand on voit des photos d'une fac avec la pelouse bien tondue, on se dit, j'aimerais bien retourner aller refaire des études, ça doit être cool d'apprendre ça maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que je sais déjà, j'aimerais bien retourner faire des études. C'est un peu le même genre de choses. Il décrit des mondes où il y a beaucoup de sachants, quoi, des hippies savants, quoi, un peu, quoi. Donc ça donne envie. Ça donne envie de lire, ça donne envie d'apprendre des choses, et ça donne envie d'avoir des parcours.
D'ailleurs, jusqu'à élaborer même des théories, dans le morceau qu'on a entendu et qui est extrait de Ludy, il est vraiment question d'une façon de faire tenir les choses ensemble, de la musique en passant par la mathématique, et d'un instrument qui permettrait, comme ça, théoriquement de contenir tout l'univers. Qu'est-ce qui vous a finalement emmené vers celui-ci, si c'était pas celui qui avait vos faveurs au départ, le jeu des perles de verre?
C'est pas qu'il avait pas mes faveurs, mais c'est que je l'ai lu tard, en fait. Je l'ai lu quand j'avais peut-être 30 ans. Là, j'ai 43 ans. Je l'ai lu et je l'ai relu ensuite vers, je sais plus, peut-être vers un peu à 40 ans, peut-être. Et j'ai fait, mais comment ça a été écrit pour moi, ça, c'est là le personnage, il a des révélations par la musique, on le prend depuis petit, bon voilà, moi je me suis revu au conservatoire avec des profs, des vieux profs, aux cheveux blancs, aux yeux bleus. Pardon pour tout.
Bah, s'ils étaient comme ça, pourquoi ne pas le dire?
Non, parce que les yeux bleus, voilà, c'est un problème. C'est un problème, les gens qui aiment les yeux bleus. Bref, donc voilà, il y a une petite part élitiste chez Hermanès que j'ai évacué très facilement parce que il est tellement sincère, tellement. On peut pas croire qu'il y a d'élitisme là-dedans, mais bref, j'avais l'impression que c'était écrit pour moi parce que le personnage principal a des révélations, des épiphanies par la musique et par un vieux prof qui lui fait jouer des fugues dans une petite pièce, voilà. Donc,
mais qui lui permet de comprendre le monde, qui lui permet d'élaborer une sorte de pensée mathématique, une pensée du nombre, une pensée de l'harmonie musicale. Mm-hmm. Lui permettant de lire le monde.
Oui, bah, le bouquin s'appelait avant de s'appeler Le jeu des perles de verre, il s'appelait Exercice de jeux musicaux. Et c'est vraiment par la musique qu'il arrive à se structurer, à raccrocher l'esprit et la raison, à unir le yin et le yang, quoi. Quoi, qu'il y arrive pas, en fait, à la fin, en fait, finalement. Enfin,
c'est pas rien.
Un spoiler, c'est tellement pas vraiment un roman que non, on peut se douter que le monde qui est décrit dans le jeu des perles de verre, c'est-à-dire la Castalie, cette espèce de province pédagogique où il y a que des esprits purs qui ne font que chercher et qui jouent au jeu des perles de verre, ce monde-là et qui est d'ailleurs subventionné financièrement par un autre monde qui s'appelle le siècle dans le livre. Et le siècle, c'est le business, la politique, c'est tout le monde dans lequel on vit nous, les journalistes, tout ça.
Pas ma carte de presse, je me sens hyper tranquille.
Ah oui, c'est vrai. Bon. Et ce monde subventionne donc la Castalie, cette province pédagogique, et en gros la Castalie ne peut pas survivre sans ce monde-là. Donc c'est un peu, il sait que c'est vain dès le début en fait. Mais quand même, il y a une tentative d'unir la pensée avec le monde, avec la terre, et ça grâce à un fil qui est le fil invisible de la musique, en gros, quoi.
Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai profondément ressenti en ayant écouté à chaque fois, peut-être une dizaine de fois, le projet dans son entièreté. C'est qu'il y a quelque chose avec le projet Ludi, ouais, qui se tient.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, c'est ce que je veux dire.
Il y a quelque chose qui vraiment est. On peut dire ça de tous les disques, voilà, c'est des projets qui.
Concept album.
Ouais, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que ça se tient au sens où c'est comme la création d'un nouvel organisme, en fait, avec des lois. Ce morceau qu'on vient d'entendre, c'est les règles, mais mm-hmm. comme s'il y avait des lois invisibles et non formulées qui tiennent ensemble les humains, les notes, l'énergie qui existe dans Ludi.
Bah, merci beaucoup. C'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire une espèce de boîte, un puzzle, une maison, quoi. Enfin, je compare tout le temps ce que je fais à une maison. Comment elle est, cette maison? Est-ce qu'elle a deux étages? Est-ce qu'elle a une tour qui penche? Est-ce que les escaliers, on peut emprunter tous les escaliers? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a une terrasse? Voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de questions que je me pose. Et donc, je voulais faire une boîte comme ça, oui, où il y avait, en effet, des règles invisibles, mais bon. Moi, je sais que je joue, les règles, elles se changent au fur et à mesure. C'est de la même façon quand on fait des jeux mentaux pour soi-même, on change les règles. Bon, par exemple, si j'arrive à mettre cette boulette de papier dans la corbeille, il va se passer ceci ou cela. J'ai trois chances. Si on rate j'en ai quatre. Et c'est moi qui me fixais les règles, donc j'étais content. Mais je me fixais quand même des règles. Je me suis fixé pas mal de règles. Bon, là, par exemple, sur ce morceau qu'on vient d'entendre, je voulais que ça se tienne, ouais. Je voulais que
c'est un extrait du texte. Hein.
C'est voilà. Je me disais, comment adapte-t-on en musique un texte littéraire? Je l'avais jamais trop fait, et donc j'ai fait plein d'essais avant. J'ai chanté des mélodies, la première mélodie qui me venait en disant le texte. J'ai essayé pas mal de choses. J'ai tapé le texte et je l'ai fait dire par une voix de robot dans l'ordinateur, ce que j'avais fait sur mon précédent disque Big Sun, pour l'ouverture. Et là, ce que je me suis dit, je vais faire comme pour ce morceau qui s'appelle One Note Samba de Jobim. C'est one note samba, donc c'est une seule note de samba, c'est This is just a little samba, drift upon one single note. Donc juste une samba, faite que d'une seule note. Donc voilà, j'ai dit le texte sur une seule note, et j'ai déroulé des accords ensuite cycliques derrière, mais la mélodie reste horizontale, comme ça. Et donc c'était ça la règle.
Ça me fait penser à ce que j'essayais de décrire au tout début, qui est une joie extrêmement intense dont je garde un souvenir extrêmement précis, mais qui n'est pas vraiment traduisible dans le langage. J'ai l'impression dans le langage des adultes, c'est la joie que l'on ressent quand on a élaboré la règle d'un jeu, ouais. Enfant, et qu'on l'a élaboré pour soi, et que même on l'a fait tenir un peu pour un ou deux ou trois, quatre personnes, et que ça existe.
Et que ça marche.
Et que ça fonctionne. Ouais. Et cette joie-là, elle est un peu, pour moi, elle est sensible dans justement la manière de dire cette phrase avec une seule note, ou de faire jouer un batteur et un basketteur et un flûtiste ensemble. Comme si vous étiez dit, ok les gars, les filles, on y va, et ça marche.
Mmh. Ça marche, oui, c'est plein de règles, c'est plein de. Bon, dans le processus, pour faire cet album, et puis en général, ce que je fais, je me pose la question, que veux-je faire, que veux-je dire? Donc, déjà, j'essaie d'y répondre, et très honnêtement, une fois que je sais ce que je veux dire, donc c'est mon point d'arrivée, c'est mon point
B. C'est toujours clair?
J'essaie d'y répondre honnêtement, en tout cas. Là, ce que je voulais faire, j'avais envie de fabriquer un objet assez virtuose, c'est-à-dire parce que j'aime bien la virtuosité, je trouve que c'est du partage, c'est-à-dire les gars, on s'est pris la tête pour vous fabriquer un truc avec des mécanismes qui vont être marrants à regarder, des engrenages. Bah ouais, quand même, parce que je passe des milliers d'heures et de nuits blanches à le fabriquer pour ensuite que les gens ils se régalent, quoi, et puis pour que moi je me régale. Donc moi je dois le jouer aussi, hein. Il faut que je joue sur scène, ça. Donc je me prépare un truc que j'ai envie de jouer avec des accords qui me plaisent, des accords chauds, des accords des suites d'accords, enfin c'est vraiment à propos de ça, à propos des accords qui vont être le fil à coudre toutes ces images et tous ces concepts. Et donc ces accords, il faut qu'ils restent chauds, accessibles, généreux, parce que sinon après si je fais le même morceau avec des accords de la musique contemporaine, vous m'invitez même pas, en vrai. Je pense. Ou en tout cas, je le sors pas comme ça, ce disque. Je vais pas aux mêmes endroits, etc.
Probablement. Beaucoup moins de partage possible, ça, c'est
oui.
Sûr.
Bah oui.
Donc ça, c'est que veux-je faire? Que veux-je dire?
Ouais. Et puis...
veux-je dire?
Je veux dire que le pouvoir de la musique, cette chose invisible, est incroyable. Il permet énormément de choses. Il permet de coudre des images les unes avec les autres, de donner un sens à une narration plutôt éparse, quoi. Bon, quand même... On va voir les jeux vidéo, les jeux de main dans une cour d'école, on filme un match de basket, on fait des images sur fond vert de chanteurs qui jouent, font un cadavre exquis, on va filmer un parc d'attractions. Bon, tout ça est conceptuellement relié par la classification des jeux. On avait lu Roger Caillois, les jeux et les hommes, là, et Huizinga aussi. Mais je veux montrer, ouais, le pouvoir de la musique, quoi. Quand même une chose qui est invisible, on la voit pas, et donc c'est quand même fou qu'elle arrive à donner une cohérence à autant de cohérence aux choses.
Qui est invisible, mais qui du coup devient comme palpable. Là, on fait juste une petite précision, Jassol, pour dire que Ludi, ça existe comme vos projets précédents avec de l'image,
oui.
Et que si on parle de couture, c'est aussi une couture de montage extrêmement précis, qui font. Ces deux choses-là font que, à la fin, ça devient un objet où ne sont plus à distinguer les images, les sons, les corps, tout va ensemble. Et ouais. ça renforce encore cette idée de l'unité qui est assez présente.
La durée, c'est, excusez-moi, Marie. Bah, ça dure une heure aussi, quoi. Même quelque chose que j'adore, j'ai pas envie qu'il dure plus qu'une heure. Et je trouve ça déjà assez assez dense. Et je pense que ça se picore, quoi. Ça s'écoute. J'ai mon rêve, c'est que ce soit un disque film de chevet, quoi. Quelque chose qu'on picore.
Vous parlez du jeu. On va en parler un peu plus.
Il faut dire que c'est un jeu solitaire. C'est un jeu qui se joue tout seul. Mmh. Mais comme tous les jeux solitaires, ce jeu n'est intéressant que si on est deux, trois ou quatre autour de la machine, autour de l'écran, et qu'on observe les prestations de chacun face à son écran.
Voilà, c'est un jeu solitaire commun.
Je cherche par là à fustiger un petit peu, vous savez, toute cette idéologie anti-informatico-logicielle qui dit que ça favorise l'enfermement, ça favorise le non-épanouissement, le repliement sur soi-même et toutes ces choses-là, pas du tout. Ce sont des jeux qui appellent les réflexes collectifs, les cris, les hurrahs, et qui vous permettent, vous, de vous entraîner seul pour être meilleur devant les copains le lendemain.
Une archive de 1988 qui essayait, dans l'émission Panorama, de décrire aux auditrices et aux auditeurs Chassol le jeu Tetris.
Mmh.
Et qui y arrivait bien, puisque finalement, il y arrivait comme ça, ce monsieur, par des chemins très théoriques, un chemin solitaire, mais qui appelle des réflexes de groupe, des réflexes collectifs, des réflexes de hourra, de joie. Et derrière, c'est un nouvel extrait du projet Ludi. Qu'est-ce que vous faites?
La mélodie de Tetris.
Bah oui. Et qu'est-ce que vous faites avec cette mélodie? Vous vous en amusez comment ensuite?
Bon, il y a tellement d'angles pour parler de tout ça, du jeu vidéo, du rapport qu'on a au jeu vidéo, de la condescendance qu'il peut y avoir sur le e-sport, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais
peut-être qu'on rappelle
Tetris,
que pour les gens qui vraiment ne savent pas ce que c'est que Tetris, c'est un petit jeu qui est né sur Game Boy à la base
ça commence sur Game Boy, je sais même
plus. Peut-être sur Nintendo, enfin bref.
Oui.
En tout cas, il s'agit de, en gros, mettre ensemble des petites briques.
Il y a des barres qui descendent de plusieurs formes et il faut arriver à remplir le mur, quoi.
Et si c'est rempli, ça explose.
On marque des points.
Ça descend, voilà. Et c'est jouissif.
Et ça va de plus en plus vite.
Ouais, c'est génial.
C'est fantastique. Et moi, ici, je joue encore. Il y a un seul jeu vidéo auquel je joue, et j'y joue régulièrement, c'est-à-dire tous les jours.
C'est Tetris.
J'y joue sur mon laptop, mon ordinateur portable. Je le mets dans un coin, et j'ai mes raccourcis clavier, et j'y joue en regardant, en écoutant, ou en regardant des débats, ou. Donc voilà, c'est une chose que j'arrive à faire sans réfléchir. De la même façon qu'on peut jouer sa main gauche au piano sans réfléchir. D'ailleurs, c'est conseillé. voilà, c'est satisfaisant. Vous voyez, sur le net, il y a pas mal de vidéos qui s'appellent des vidéos satisfaisantes. Je vous invite à aller regarder. C'est des vidéos de, je sais pas, de découpage de choses ou d'alignement de choses, de synchronisation. Des choses qui satisfont l'alignement. Je sais pas comment le dire autrement, mais voilà. Moi, ça satisfait beaucoup de choses, Tetris. Bon, je finis par perdre avec la machine. Mais je recommence, c'est pas l'histoire de gagner ou de perdre, c'est une histoire de...
Mais c'est une histoire de quoi? D'ordre?
Ouais, d'ordre, d'alignement, ouais.
Ouais, c'est ça.
De choses alignées. Alors,
d'un seul coup, les choses, elles s'harmonisent parce que, en gros, il y a un rectangle ou un L qui va bien s'emboîter dans un autre truc.
Exactement.
Et alors, on est satisfait de ça.
Ouais, c'est une sensation physique de complétion, quoi. Je sais pas comment le dire. Mais, oui, non, ça, bon, voilà, je joue à ce jeu. Donc, voilà, c'est, quand j'ai refait mes recherches pour fabriquer Ludi, je me suis dit qu'il fallait que je filme les jeux vidéo. Donc, je suis parti à Tokyo. La maison mère.
Donc, grande culture de ça.
Voilà, j'ai filmé une salle d'arcade vintage qui s'appelle Mikado. J'ai réservé la salle à une matinée pour pouvoir avoir les machines allumées, mais sans tous les gens qui jouent. Et j'y suis retourné après avec un rappeur assez connu là-bas et ses amis qui, ils ont même tatoué les signes des manettes sur leurs mains quasiment. Les ronds, les triangles, etc., les croix. Et ils ont déambulé dans la salle et je les ai filmés en train de jouer. Ils jouaient à Tekken. Mais donc voilà, j'ai filmé la borne d'arcade qui diffusait Tetris, qui diffusait le Pac-Man aussi. C'était très important de le filmer parce que
petite boule auquel on a enlevé une portion comme de fromage et qui avance en mangeant des choses.
Voilà, vous connaissez la chanson.
Allez-y.
Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est le Pac-Man. Ouais. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est Pac-Man. Il roule, il court.
Mais ça, on l'a pas pendant le jeu vidéo aussi?
Ah non, non, non.
Ah oui.
Non, 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 ça c'était William Lemergy qui a chanté ça plus tard dans les années 80.
Parce qu'il y a aussi une petite musique qui est associée au Pac-Man qui mange des trucs.
Oui, il y a des sons surtout.
Ouais.
Qui sont fantastiques. Tetris. Bon voilà, j'avais Pac-Man, j'ai filmé le Tetris. Donc c'était important de le filmer pour moi et ensuite j'ai fait une interview avec cette fille qu'on entend cette chanteuse qui s'appelle Crystal Kay, qui est un peu une star là-bas au Japon, c'est une sorte de Beyoncé du Japon. C'est une amie, elle est assez géniale et je l'ai filmée dans un ascenseur de Shibuya à Tokyo. On a fait 2 heures d'interview en allant du 0 au 15 comme ça pour avoir la vue et puis pour petite métaphore où ça descend et ça monte avec la ville et les gratte-ciel qui, bah, voilà, qui évoque le Tetris. Quand elle, à un moment donné, je lui demande de me chanter des thèmes de jeux vidéo. Je lui demande, je lui parle de son rapport au monde, de son rapport aux jeux vidéo.
Super lapsus.
Oui, de son rapport aux jeux vidéo. Elle me parle des RPG qui sont les role-playing games. Mais donc voilà, on se met à chanter des thèmes connus, notamment le Mario. Mario Bros est très connu aussi. Mi 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 do mi sol do sol mi ta ti ta 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 tu ta 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 tu ta 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 ta. Voilà. Et donc on a le Tetris. Bon, moi je voulais lui parler Tetris. Donc la mélodie, c'est une vieille mélodie russe. J'ai oublié son nom, mais c'était...
Ah oui, c'est vrai, ça fait J'avais jamais pensé à ça.
C'est une vieille mélodie russe, libre de droit, je signale. Et donc, bah voilà, je lui ai demandé de la chanter, je lui chante les notes, elle le solfie à l'occidentale, c'est pour ça qu'elle est des chi au lieu des mi. Mi, chi, do, ré, do, chi, la. Et voilà, et moi ce que je savais, c'est que bon, dans mon processus, avoir une mélodie toute simple, c'est génial, je peux lui mettre les accords que je veux derrière, et donc la réharmoniser et lui donner une autre réalité. Donc j'ai harmonisé d'abord Crystal en train de le chanter avec les accords que je voulais, et ensuite je l'ai fait la même harmonisation mais qu'avec des synthés et que j'ai accéléré, et c'est ce qu'on entend au début, et ensuite on a Crystal qui le chante.
Sans compter, Chassol, que vous avez aussi harmonisé son rire,
oui.
Un petit peu de la prosodie qui est notre prosodie naturelle et qui encadre la manière dont nous parlons, dont je parle là, dont vous parlez. Et c'est aussi ce qui a fait une signature de votre travail musical depuis les autres projets. C'est que d'un seul coup, ce qu'on disait tout à l'heure de pouvoir de la musique qui est invisible, qui est informulée, il y a aussi toutes ces choses qui sont nous. Et on chante en permanence, et c'est un peu invisible et informulé. Et vous, vous venez, comme d'autres musiciens avant vous, mais vous venez et vous. C'est comme si vous mettiez un tout petit coup de, je sais pas, de fluo, quoi.
Oui, mais c'est ça, c'est un peu. Mais c'est dévoilé, oui. C'est des choses qui existent déjà qu'on dévoile, en fait. On n'est pas en train de créer quelque chose, vraiment. Même si en assemblant des choses, on donne une. Avoir peut-être une autre
toujours.
Réalité. Bah, c'est comme Cage qui dévoile les choses, qui dévoile qu'il y a du silence, quoi. Voilà, c'est. Tout d'un coup. On lève le voile, ouais, voilà, c'est sûr. Voilà, on encadre hein, quelque chose en disant, tiens, regardez, il y a ça, et il y a cet endroit-là. Alors, on souligne en effet le fluo avec les accords, les hauteurs et les accords et les mélodies, oui.
Et ce qui se fait aussi à la force de deux choses, à la force de votre goût et votre passion, par exemple, pour cette petite mélodie simple de Tetris, et vous parliez des sachants tout à l'heure, et aussi d'un savoir musical. Puisque à cette Crystal Cueil, vous ne lui dites pas simplement « viens, on chante Tetris », vous lui dites aussi « viens, on chante sol, do, mi, ré », enfin, parce que vous avez une grille de lecture possible d'un savoir qui est très populaire par un savoir qui est sachant.
Oui, alors bon, moi c'est vrai que comme j'étais au conservatoire petit, j'ai toujours eu l'habitude de solfier, c'est-à-dire de dire le nom des notes pour chanter des choses. Alors, pour le coup, j'ai pas de parole sur le Tetris. Hein. Je connais pas de parole. C'est une mélodie sans parole, a priori. Le plus direct, c'était ça, quoi. J'ai même pas spécialement réfléchi à ça. Je pense que c'est elle qui a sauté sur l'occasion de le chanter comme moi. Je lui chantais en disant le nom des notes, ça me paraît. J'y ai pas réfléchi. Elle a suivi en solfiant. Mais ça m'était déjà arrivé plusieurs fois sur d'autres projets comme ça, d'autres films.
Non, mais c'est aussi un réflexe, là. Tout à l'heure, vous entendiez une musique, vous le solfiez tout de suite.
Oui, je solfie. Parce que, oui, c'est le moyen le plus rapide.
C'est votre langage. C'est un langage.
Oui,
c'est un
langage.
Des langages.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien. Ça donne une certaine objectivité aux notes, je trouve. Et du coup, la subjectivité de la mélodie, elle se dégage plus dans son vrai sens, du coup, peut-être. Je sais pas. Non, je n'ai pas de réflexion là-dessus, beaucoup, mais c'est très agréable de savoir solfier.
Ah oui, mais pourquoi du coup ?
Mais parce qu'on peut s'emparer de tout, en fait. C'est-à-dire que quand on travaille, moi j'ai travaillé, mon père me faisait dire le nom des notes quoi que je travaille quand j'étais petit.
Quel que soit l'instrument, la voix.
Oui, moi j'étais au piano, donc ouais. Quand on travaillait des choses, il me dit bon bah dis les notes quand tu travailles. Et ce qui fait que j'associe, à force de bosser comme ça, j'ai associé. Le cerveau associe un son avec le nom de la note. Donc j'ai même pas. À réfléchir, c'est-à-dire qu'un klaxon, ça me dit le nom de la note. Donc c'est très pratique, c'est très agréable, ça permet d'aller vite et de communiquer avec beaucoup de monde sur la planète.
Ça m'a fait penser aussi, et là en vous écoutant avec l'association d'un son et d'un item de langage, quoi, qui va être le langage du solfège, à la synesthésie. C'est-à-dire que ce n'est pas que, par exemple, dans Ludy, même quand on ne fait que écouter Ludy, alors c'est peut-être parce que moi j'ai vu des images en plus, mais il y a l'association de couleurs, de chaleurs, de mouvements, de danse, qui nous rappelle, et on en revient encore à cette idée de totalité, que la musique, pour certaines personnes en fait, ça peut être tout. Ça peut tout contenir. Un peu comme le texte de Hermann Hesse le laisse théoriquement supputer.
Oui, il y a un petit peu tout, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas en fait? C'est juste comme ça qu'on pourrait se poser la question. N'y a-t-il pas dans la musique? Parce que bon, les images, on se les fait. Bon, a priori, ce qu'il n'y a pas dans la musique, c'est oui, c'est l'image directe, quoi, objective, mais est-ce que c'est... Non, mais c'est dans le cinéma qu'il y a tout. Quoi.
Ah, moi, je pense que c'est dans la musique.
On a tendance à dire que c'est plus noble, parce que c'est invisible peut-être, mais j'ai l'impression que dans le cinéma, faut quand même le cinéma, il y a tout dedans.
On va continuer à parler de musique.
Moi, j'en suis à attendre éperdument que des phénomènes sonores, dont on me sort des tartines énormes et très talentueuses, hein, sortent quelque chose de musical. Et de temps en temps, j'entends quelques instants qui me paraissent musicaux, mais...
Et pourquoi ça semble musical? Quel est le bon critère pour toi? La musique, c'est quoi? Quand il s'agit de musique électroacoustique.
Je vais te dire, c'est quand ça me touche. Mais rien que le mot est déjà obscène. Il ne faut pas que ça touche, il faut que ce soit des objets. Il faut que ce soit des trucs expliqués, etc. Il ne faut pas...
Ouais, on sent le procédé. Comment veux-tu que ça touche? On sent que c'est lié à un équipement. Je ne le répéterai jamais assez. Moi, ce que je fais chez moi, c'est je n'ai pas d'équipement, donc c'est lié à rien. C'est lié à une bande magnétique. Et c'est lié à un univers de son. Mais ce que j'entends dans les studios en général, c'est lié à un équipement. Donc il y a une permanence de couleurs, d'effets.
Que les sons soient liés à un équipement, c'est presque obligatoire, sauf quand on est tellement habile et personnalisé qu'on arrive à les colorer. Étant donné que toi, tes sons, je ne dis pas tous parce que ce serait trop miraculeux, mais il y a un certain nombre de sons qui portent ta marque. Moi, je pourrais si c'est chantable, je te les chanterais. Il y a des sons, mais des petits sons de rien du tout qui portent ta marque. Bon, de temps en temps, ça arrive à quelqu'un.
Mais ils sont chantables.
Quelquefois, oui. Ah, quelquefois, oui. Pas toujours, tous. Enfin, ils sont même
ma fille les chante.
Ils sont mémorisables. Donc, si on peut déjà colorer un pauvre son tout seul de sa personnalité, que dire des sons qu'on met ensemble? Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que les appareils colorent aussi, donnent une forme aux séquences. Les appareils jouent. Tu sais bien qu'un synthétiseur, c'est un automate.
Oui, mais ce que je trouve déplorable, c'est que l'appareil joue tout seul, c'est que l'appareil fait des séquences, c'est que l'appareil vous met dans une situation où on ne peut plus ni réfléchir, ni rien faire, et on ne peut même pas contrôler ce qu'on fait. Il n'y a aucune référence à des échelles de hauteur.
Même puisqu'on n'en veut pas.
De quart de ton, mais si, moi j'en veux bien. Oui, ça m'intéresse, la hauteur. Et le phrasé, et tout. Et j'aurais bien voulu que cette musique soit plus liée à l'écriture abstraite de la musique en général.
C'est beaucoup trop chou, j'ai envie de dire, cette archive de Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, deux grands noms de la musique concrète, deux grands noms aussi de cette maison, de la maison de la radio. Chassol, c'est une archive de 1979. Il y a plein de choses dans ce petit bout de conversation. Il y a, je crois, déjà une sorte d'opposition de génération entre Henri et Schaeffer, enfin d'un moment dans la musique, une sorte de regret, mais on est en 79, donc il a encore du temps devant lui. Pierre-Henri qui dit « J'aurais voulu que cette musique des machines » ait à voir avec le langage musical, avec la hauteur, avec une écriture presque musicale plus classique, on va dire. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez Schaeffer refuser que ça le touche? Il faut que ce soit des objets, dit-il.
J'entends un moment de l'histoire de la musique, quoi. J'entends, mais John Cage disait à peu près la même chose quand il dit des choses du genre « Oui, je n'ai pas besoin que les sons... soit déguisé en guerrier, en romantique ou en ceci pour les aimer, j'ai juste besoin qu'ils soient, quoi. Je les aime tels qu'ils sont, quoi. Et ça correspond à des moments, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Enfin, aujourd'hui. Mais c'est bizarre parce qu'on était déjà dans le postmodernisme en plus. Pour moi, en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Juste, c'est difficile de dire il faut, ça doit être comme ça. Je l'ai entendu dire il faut là. Mais moi, j'en pense que parfois, j'aime bien que les sons soient déguisés. Parfois, je préfère qu'ils le soient pas. Ça dépend de ce que j'ai envie de dire. Et ils sont, si c'est en 79, ils sont à la veille de. Donc des années 80 qui va venir avec ces machines
les synthétiseurs.
Déshumanisées un peu. Bon, il y a déjà eu des synthés bien avant, hein, mais là, on va se retrouver dans les années 80 avec une industrialisation des choses qui va déshumaniser un peu, ouais.
On est très loin.
Avant que ça se fasse reprendre. Enfin, aujourd'hui, on peut jouer d'une machine de façon très organique. On peut jouer de la machine organiquement, quoi.
Absolument. C'est pour ça que je dis qu'on est hyper loin de ce que vous faites, vous. J'ai l'impression, même si vous avez le droit d'aimer quand les sons ne sont pas déguisés, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de absolument organique, vivant. Je parlais tout à l'heure de la création d'un organisme vivant à part entière. D'ailleurs, il me semble que au départ, vous vouliez faire quelque chose autour des animaux.
Oui, c'est vrai.
Et il y a quelque chose de ça. C'est un peu une petite bestiole.
Oui, oui. Ah oui, oui. Bah, c'est toujours ce truc de S aussi, c'est qui oppose la chair et enfin l'intuition avec la raison, tout ça. Enfin, c'est mouvant, mais c'est quand même c'est pas cadenassé, mais c'est autonome, c'est comme un engrenage, quelque chose qui pourrait marcher à l'infini sans avoir recours à l'électricité, par exemple. Mmh. Vous voyez, mais moi je sais toutes ces questions sur la musique concrète. En fait, moi, en fait, je fais pas ce travail que je fais. Je le fais pas parce que Pierre-Henri, Pierre Schaeffer. Je viens vraiment de la musique de film plus pas forcément populaire, mais disons. Il y a un peu un refus des accords chauds et de la pop, je trouve, dans, bon, à part pour la messe, pour le temps présent, là. Mais donc, dans la musique concrète, le GRM, tout ça, il y a un peu une volonté de, mais peut-être que je me trompe, hein, mais.
De pas séduire, en tout cas.
Voilà. Ils ont peur d'être dans la séduction. Bon, moi, je sais que j'écoute des compositeurs qui n'ont pas peur de ça. Notamment, je sais pas, John Adams, qui n'a pas du tout peur de faire des grosses mélodies bien tonales et mêlées avec un travail de recherche évident. Donc, je viens plutôt à ce que je fais par la musique de film. C'est-à-dire par la synchronisation d'images et de sons. Il se trouve que dans les images que j'ai l'habitude de synchroniser avec de la musique, j'ai trouvé des sons dedans. J'ai vu que je pouvais me servir des sons qui étaient dans le film, quoi, dans l'image, et que je pouvais commencer à les considérer comme des sons qui apportent des notes.
Ce qui est du coup pas hyper loin d'une démarche de Pierre-Henri, qui pouvait enregistrer une porte qui se claque chez lui, ouais. Et y trouver des tonalités, des chaleurs, mm-hmm. Oui, une partition presque.
Ouais. Mais je veux dire, le focus était là-dessus, quoi. Ouais. Moi, mon focus, il est sur juste ce que j'ai envie de déployer, c'est des suites harmoniques, des suites d'accords. C'est là que j'ai mon poil qui se hérisse, quoi. Et en plus, quand c'est synchronisé à l'image, là, je suis le plus heureux des hommes. Et je cours parmi les oiseaux nus, poursuivi par les loups, solitaire et affamé. Les anneaux de Saturne sont beaux. Parmi les oiseaux nus, poursuivis par les loups, solitaires et affamés, sous des éclats d'astéroïdes, et j'entends la musique céleste me susurrer des mots d'amour.
Par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Chassol.
Les anneaux de Saturne sont beaux, et je cours parmi les oiseaux nus, poursuivi par les loups, solitaire et affamé, sous les éclats d'astéroïdes, et j'entends la musique céleste.
On ouvre son micro. J'ai menacé Chassal.
Je disais que le morceau était simple, c'était juste deux accords, majeur, mineur. C'est si ré fa, si ré bémol fa.
Mais surtout, vous avez dit, si je fais un beat de batterie comme ça, c'est pour pas perdre les gens.
Oui, bah oui. En musique contemporaine, si tu envoies un beat comme ça, oui, c'est pour tendre la main aux gens, c'est pour qu'ils soient pas perdus avec une mélodie qui est juste comme ça, qui flotte. Il faut quand même il faut raccrocher, il faut tendre la main. Sinon, c'est dur pour les gens. Mais il est simple, regarde. Dilena, 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 dilena. Ouais, c'est simple. Mais c'est... Enfin, oui, j'ai pas envie de perdre les gens, ouais.
C'est beau que ce morceau il se termine sur les mots, Chassol, ouais. Parce que il y a aussi ce jeu-là qui est très présent. On l'entendait dès le départ avec les règles, mais il y a aussi tout ce qu'on appelait le jeu de la phrase,
ouais.
Où en gros on met des gens généralement en cercle, on peut se mettre en ligne comme ça, et il faut faire une phrase.
Ouais, c'est le but.
Et c'est hyper drôle.
Bah, c'est hyper drôle. Moi, je joue à ça depuis que je suis petit. J'ai joué avec ma sœur pour passer le temps dans les trajets en voiture, pendant les communions, les baptêmes aux Antilles. Avec les cousins, on jouait à ce jeu. Enfin, c'est toujours hyper drôle. Alors, je peux vous en parler un petit peu?
Mais
ouais.
On est là pour quoi?
Oui, non, mais oui. Mais en fait, c'était un régal de jouer à ce jeu. En fait, c'est un peu ma partie de jeu de perles de verre, quoi. C'est à la fin du film. Et donc là, j'ai fait deux jeux de la phrase, donc avec deux trios. Un premier trio avec Alani, Karine Chassol, ma sœur, et Mathieu-Edouard, mon batteur. C'est trois qui jouent ensemble, donc ils essayent de former une phrase. Et je l'ai fait là, c'est le résultat du jeu de la phrase, du second jeu de la phrase. C'est avec Alice Orpheus, Alice Lewis et Thomas de Pourquerie. Et celui-ci est en français, donc. Alors, bon, on les a filmés sur fond vert, en train de jouer à ce jeu. Et c'était fantastique, parce que en faisant le tournage, je me suis rendu compte que c'était un jeu donc qui utilisait les quatre catégories de jeux dans la classification des jeux par Roger Caillois. Donc c'était donc on en a parlé tout à l'heure.
Mais non.
Non, on n'a pas. En fait, j'ai fait une interview avec l'équipe tout à l'heure et je leur en ai parlé. Donc j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé aujourd'hui.
Oui, je comprends, mais en fait, je n'étais pas là.
Oui, non.
Et les autres non plus.
Ben non, c'est sûr. Alors bon, bah Roger Caillois, il fait une classification des jeux qui dans les jeux et les hommes qui est la suivante, c'est les jeux de compétition, on connaît tous. Les jeux de hasard, voilà, on connaît. Le simulacre, alors là, qu'est-ce que ça va être?
C'est le théâtre. Le théâtre, par exemple, ouais.
Mettre un masque,
jeu
de rôle, exactement. Et puis, la dernière catégorie que j'adore, qui est le vertige. C'est-à-dire s'amuser à se faire tourner la tête, le parc d'attractions et son roller coaster, etc. Donc ça m'avait pas beaucoup aidé, cette classification, pour choisir que filmer. Et donc, quand on a fait ce jeu de la phrase, je me suis rendu compte qu'il y avait les quatre, parce que c'est une compétition au sens où celui qui se souvient des mots de la phrase et de chaque mot gagne, et qui peut redire toute la phrase en entier. C'est un jeu de hasard parce qu'on ne sait pas ce que le joueur à côté va dire. C'est un jeu de théâtre, de rôle, de simulacre, parce qu'on interprète chaque mot, chaque phrase, chaque locution. Et puis, c'est un jeu de vertige parce que la phrase commence petite et puis grossit et tourne et tourne et tourne, voilà. Et donc là, c'est là que j'ai eu ma thèse pour le film. C'est-à-dire que quand on a joué à ça, pour faire la meilleure partie possible, pour fabriquer la meilleure phrase possible, quand un des joueurs ne se souvenait pas d'un mot, son voisin lui soufflait. Donc, exit la compétition. Voilà.
Ça devient un jeu de coopération.
Ouais. Pour faire la meilleure partie possible. C'est ce qu'ils veulent faire dans le jeu des perles de verre. C'est un peu comme ça que je l'imaginais, parce qu'il n'est pas décrit dans le livre, mais j'imaginais vraiment des gars ou des personnes, des hommes et des femmes, en cercle, en train de méditer, en méditation et limite en lévitation, pendant un mois, comme ça, à se passer des idées en télépathie, quoi. Voilà.
Un peu comme des musiciens qui improvisent ou un peu comme des gens qui jouent ensemble de la musique d'une certaine manière et on retombe sur nos quatre pieds.
Ouais, exactement. Parce que pareil, avec le rapport que j'ai avec Mathieu Edouard qui joue la batterie avec moi, on est face à face en concert avec l'écran derrière, donc tous les personnages, on est dans l'écran et nous on se fait face, on est de profil par rapport au spectateur. Et le Mathieu, ça fait un moment que je travaille avec lui, il est fantastique batteur et j'ai l'impression qu'il lit dans mes pensées, qu'il comble les vides ou les moments où je swing pas assez, qu'il attend le bon temps. C'est qu'on fait que manipuler le temps en fait, que étirer le temps avec une vidéo qui est loquée, c'est-à-dire c'est une heure de film de montage qui est toujours le même, mais nous on joue à l'intérieur, on tire les fils, on a des rendez-vous et c'est comme un fil de caoutchouc qu'on tire comme ça. Et on revient toujours aimanté par la partition. Mais on peut stretcher, on peut sculpter le temps. Lui, il le sculpte, j'ai l'impression qu'on est dans ma tête. Donc voilà, c'est un jeu où on fait valdinguer les notions.
Parce qu'il y a de l'improvisation, parce qu'il y a de la vie. Je pense aussi, il n'y a pas très longtemps, c'est la musicienne Kazet qui était à votre micro. Et on parlait de la puissance et de la joie qu'il y a à être un gang, un groupe, à faire des choses ensemble. Et ça aussi, c'est très précieux dans l'UDI. Donc c'est intéressant, Chassol, que vous parliez de la coopération. C'est qu'on a l'impression que, bien sûr, il y a vous. Il y a votre tête pensante, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, l'espèce de vision comme ça. Mais il y a aussi tous vos potes de jeu, quoi. Carrément. En fait, et ça, on sent que s'ils ne sont pas là, et vous disiez tout à l'heure, je ne veux pas perdre les gens, mais on sent bien que c'est à plein d'échelles que vous ne voulez pas perdre les gens. Et que là, il y a un espèce de collectif, sinon solide, en tout cas sacrément joyeux, quoi.
Ben moi, j'ai grandi quand je... Bon, j'étais à la fac, puis je commençais à me lancer professionnellement dans la musique et j'avais pas de famille vraiment de musiciens. J'étais un peu à cheval entre plusieurs trucs parce que je venais du jazz et du classique et de la pop et en même temps de musique latine, ça. Et je voyais des gens que je connaissais, des amis, mais qui étaient tous en groupe, en crew, là, les gars du jazz et je me disais, putain, ils sortent des disques et tout, j'étais bien assez jaloux quand même. Et puis, bah, au fur et à mesure, je me suis constitué une famille, ouais, de d'amis, de gens. Ça met du temps, mais oui, c'est le disque le plus collectif, ouais, que j'ai fait là, celui-ci. Ça s'est fait vraiment collectivement parce que je connais de mieux le processus, je sais mieux les étapes maintenant à force de faire des disques. Je sais mieux les étapes de fabrication, de travail, pour la performance. Et donc, par exemple, j'étais en tournée en même temps que je fabriquais le disque. Et à chaque petite avancée, chaque fois que je faisais quelque chose la nuit, et je l'amenais en tournée pour qu'on l'écoute avec Boris Mémy, qui est notre tour manager, et Mathieu Edouard, le batteur, et Renaud Thiel, notre ingé son. On voyage à quatre sur la route. Et je leur fais écouter le moindre truc, le moindre avancée. Si bien qu'ils le connaissaient presque par cœur avant même qu'on enregistre. Et puis qu'on discutait, on débattait du son, de la narration, des motifs, on écoutait plein de choses. Enfin voilà, donc c'est.
En quels termes vous débattez sur quoi, par exemple?
Ah, mais c'est.
Non, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ce genre de
choses. C'est génial les conversations là-dessus. Oh, je sais pas, c'est l'ingé son qui nous dit des trucs sur la diffusion de la basse depuis 1990 à aujourd'hui dans tel type de salle de concert, comment on fait pour avoir le son bien précis de ceci, de cela. Enfin, c'est des trucs très techos, quoi, très geek. Mais que j'ai eu aussi, par exemple, passionnantes, des conversations passionnantes avec le monteur. C'est la première fois que j'ai bossé avec un monteur, là. Donc moi, j'ai toujours monté mes films, parce que monter, c'est composer, quoi. Donc là, j'avais besoin de quelqu'un, parce que j'ai fait du fond vert, et que il fallait détourer, que ce soit propre, et tout organisé, j'avais encore plus de rush. Donc j'ai bossé avec une boîte de post-prod qui s'appelle Machine Molle, et ils m'ont trouvé un monteur génial qui s'appelle Étienne Guerriot, et qui a 25 ans, et c'était la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. On a passé, en gros, 2 mois et demi, non-stop, nuit blanche, à travailler, à monter la chose. Et on avait des discussions passionnantes du genre. Donc on filmait le basket, il y avait le basket, il y a un joueur qui a une balle dans la main, qui la jette au sol, et je répétais cette chose 3 fois. Et ma question, c'était où je mets le premier temps, au moment où il a la balle dans la main ou au moment où la balle tombe au sol.
Qui est une question de musique ou qui est une question de cinéma?
Cinéma et musique en même temps. Et donc... ce qu'on a fait, c'est que je lui dis, bon, bah viens, on va downloader Shining. Et dans Shining,
Donc télécharger ce film.
Oui, on va télécharger Shining. On va le trouver, on va le regarder. Et dedans, il y a une scène dans l'hôtel avec Jack Nicholson qui jette une balle de baseball. Et je sais que la musique, c'est musique pour percussion, cordes et célestades, Bartok, avec les timpanis, les timbales, comme ça. Et je voulais savoir si les coups de timpani, est-ce que Kubrick, il les cale au moment où la balle touche le sol ou bien au moment où elle part de là pour faire notre décision, pour décider de ce qu'on allait faire, nous, tu vois. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Ou mesurer les centimètres de split screen chez Brian De Palma pour nous, nos split screen, faire les mêmes parce que j'adore De Palma. Tu vois. Voilà, c'est ce genre de discussion.
Donc c'est un collectif très large puisqu'on parlait des aînés. Il y a aussi ce collectif qui s'élargit à Hermann Hesse, à De Palma, à Kubrick et aussi avec quelqu'un comme Von der Koken.
Oh, j'adore.
Une chose qui me touche beaucoup, c'est cette idée d'essayer de penser pendant qu'on filme. Et c'est exact. J'ai quelque part dit dans le passé que pour moi, le faire du cinéma, c'est essayer d'organiser un processus de pensée entre la parole, la poésie, la peinture et la musique. Donc la pensée est là, quelque part, entre ces choses. Je dirais maintenant que peut-être cette formulation est un peu trop systématique. Je dirais plutôt que, pour moi, le cinéma, c'est quelque chose de physique, c'est-à-dire au moment que je tourne, c'est corporel, je tiens la caméra, qui a quand même un certain poids. Je réagis physiquement aux circonstances, aux regards, aux paroles des autres, aux mouvements, au climat. Et en même temps, j'ai toujours cette idée, comment je peux aller à la chose suivante, de là où je suis. Donc derrière, il y a toujours quelque chose de fébrile qui essaye de penser ce qu'on est en train de faire, aussi en fonction de ce qu'on a déjà tourné à d'autres occasions. Donc il y a toujours cette espèce de moments rétrospectifs, de feedback, où on essaye, oui, j'ai ça, j'ai maintenant besoin de ceci. Donc on essaye aussi de pousser, de manipuler, d'aller dans un sens et pas dans un autre avec les gens. Et en même temps, être ouvert à tout ce qui s'offre et à cette chose physique entre les gens. Où cette chose physique, c'est presque limitatif parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre. Il y a des choses comme de vibration peut-être.
Par écouter ce morceau-là après la voix du réalisateur Johan van der Koken, c'est une archive de 1997, parce que Chassol, il me semble que c'est là qu'on peut entendre peut-être de manière peut-être la plus manifeste la manière dont se conjugue le réel, quoi, des petites filles qui jouent dans la cour de récréation avec des règles bien précises. Et la musique. Et van der Koken, il dit plein de choses comme ça sur la manière dont physiquement on réagit aux énergies qui se déploient devant nous quand on filme. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe dans cette petite séquence.
Ah mais la façon de filmer, la façon de faire du documentaire de Johan van der Koken m'a ouvert les portes, m'a ouvert les yeux même. Il fait partie des réalisateurs où je me suis dit ah d'accord, ah on peut faire comme ça. Enfin, comme quand on voit 2001, où on se dit ah on peut faire des films comme ça, ah, d'accord. Et donc là j'ai vu presque tous ses films et il a un corpus, il a plein de choses qu'il a filmées, plein de musique qu'il aime, plein de plein de plans et il mélange tout ça comme un Lego. Et donc il m'a appris aussi beaucoup de choses sur le travail de documentariste, comment on peut intervenir ou pas. Alors lui, il tient la caméra, moi j'ai une chef-op. Et là, par exemple, avec ses filles, je me suis renseigné avant d'aller filmer. Hein. Bon, je n'ai pour deux minutes. Je me suis renseigné avant d'aller filmer. J'ai vu un film qui s'appelle La règle du jeu. C'est pas du jeu, pardon. Filmé. C'était une école maternelle filmée. J'ai appelé les gens qui avaient filmé et ils m'ont dit bon, bah on a planqué. Nous, on s'est mis dans la cour d'école. On est à hauteur d'enfant aussi. Donc là, dans ce qu'on entend, j'étais plus qu'à hauteur d'enfant, j'étais en contre-plongée. Mais je sais que je peux intervenir. C'est comme quand on regarde des particules, si on intervient, si on les regarde, elles changent de comportement. Mais là, je suis conscient que j'interviens dans leur jeu pour les filmer. Et après, je leur ai même demandé de dire leur prénom en même temps. Parce que je voulais qu'elles parlent en même temps. Elles le faisaient sans dire leur prénom. J'aurais eu que quelque chose de rythmique. Et donc là, je sais, grâce à Van der Kuyken, que je peux intervenir. Que j'ai le droit d'intervenir. Si c'était que Frédéric Wiseman, par exemple, lui, il n'intervient pas. Il n'y a aucune parole. Mais bon, moi, je me permets parce que je sais que de toute façon, il n'y a rien d'objectif dans la vie, quoi.
Non. C'est un très beau mot de la fin.
Okay.
En plus, c'est une question. Merci beaucoup. C'est donc Ludi, c'est le titre de cet objet. Alors, comment ils font les gens? Ils vont vous voir sur scène pour l'avoir complètement?
Bah, moi, l'objet, ce que je propose, c'est le film, d'abord. Il se trouve que ce film, la musique de tout ce film, est déclinable en album. Donc, on sort un album. Quand on achète l'album, on a un lien pour télécharger le film. Et après, c'est une autre expérience en concert, j'imagine.
Donc l'album chez Tricatel et tous les concerts sur la page de l'émission Parlait-on qui court. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie.
Un point précis sous le tropique du Capricorne.
À la réalisation, c'était Davy Travailleur. Aujourd'hui, à la prise de son, Marie-Claire Oumabadi. Parlait-on qui court, c'est Julie Ascal, Romain de Bec-de-Lièvre, Jeanne Aléos et Marianne Chassor. C'est aussi une page sur le site internet de franceculture.fr. Parlait-on qui court, il y a une petite enveloppe pour nous écrire. Depuis que je le dis, vous le faites, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner à un podcast via l'application Radio France. Dans un instant, 22h, c'est le journal. Très belle soirée à vous sur France Culture.
Depuis, j'ai oublié laquelle, sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil. Exactement, juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert.